Le tour du Québec en nouvelles.
De retour dans Trudeau-Landry, on va faire le tour de l'actualité régionale. On débute en Estrie avec Josiane Lucie qui nous parle d'un problème de pollution sonore en lien avec la crypto-monnaie.
Deux conseillers municipaux de Sherbrooke implorent une intervention du gouvernement provincial dans le dossier du bruit créé par une entreprise de crypto-monnaie Bitfarms. Au nom des citoyens qui souffrent des nuisances sonores et des vibrations qui sont causées par l'entreprise, ils demandent une intervention rapide du ministère de l'Environnement. Les deux élus ont d'ailleurs interpellé certains députés de la région. Pour sa part, le conseiller Marc Deneau ajoute que la création d'un certificat d'autorisation par le provincial pour ce genre d'entreprise serait utile pour toutes les villes du Québec.
Du côté de Claude Boucher, en Mauricie, on a des nouvelles de l'ancien président de Cogeco Média qui aurait les yeux sur un poste de maire.
On parle de politique municipale. L'ancien président de Cogeco Média, Richard Lachance, pourrait se lancer en politique municipale en Mauricie dans un an. Il est résident du village de Sainte-Anne-de-la-Pérade depuis plusieurs années. Il songe à briguer les suffrages pour la mairie. Richard Lachance a confié avoir été approché par plusieurs personnes. Sa santé et le contexte de la pandémie font partie de ses éléments de réflexion.
À Gatineau, Mathieu Lecas nous parle d'un homme qui fait face à de graves accusations criminelles.
Le suspect en question s'appelle Denis Amel Racine. C'est un client bien connu des milieux policiers. Il a également hier a été accusé du meurtre non prémédité de Matthew Francis O'Aaron. Rappelons que ce dernier a été découvert dans le stationnement d'une station-service la semaine dernière. Il avait subi plusieurs lacérations à l'aide d'une arme tranchante.
Du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Martin et Thomas Côté nous parlent de ce médecin à qui l'on reproche de vouloir se protéger.
Un urgentologue de l'hôpital de l'Abbé a pris l'initiative de porter un masque N95 dans certaines situations cliniques pour diminuer les risques de contamination et il s'est fait rabrouer par le CIUS. Il s'est même fait menacer de sanctions s'il continuait à utiliser le fameux N95. Le docteur Dominique Gagnon a même réitéré sur Facebook qu'il allait continuer de faire confiance à son jugement clinique dans l'avenir.
Et on termine à Québec avec Pascal Caron-Vézina qui nous parle de cette initiative de la Ville de Québec qui veut s'inspirer de Montréal et de ses fameux Bixi.
Ici, eh bien, il y a un réseau de vélos à assistance électrique en libre-service qui va naître dans les rues de Québec à compter de l'été prochain. Ça a été annoncé hier et là, le réseau de transport de la capitale compte lancer son nouveau service à vélo. Vélo libre-service disponible 6 mois par année entre avril et octobre. On estime que l'aventure va coûter de 25 à 30 millions de dollars sur 10 ans et on espère atteindre l'équilibre budgétaire sur la même période.
Jérôme, on parle, toi et moi, de comment on entrevoit la fête de Noël. Ce sera quoi les impacts? Est-ce que ça va déborder de partout dans le système hospitalier? Comment ça va réagir dans les écoles? On y va avec les compétences qu'on a, les connaissances qu'on a, mais qui de mieux qu'une experte dans le domaine pour voir comment on doit entrevoir la situation? Encore une fois, on a le plaisir de parler avec la docteure Cécile Tremblay, qui est microbiologiste et infectiologue. Docteur Tremblay, bonjour.
Bonjour.
Dites-moi, vous, la période des fêtes, comment vous la voyez? Quel est le risque? Il y a différents scénarios qui sont évoqués, seulement Noël, le jour de l'an, le nombre de personnes possibles, le nombre de jours sur lesquels on pourra voir des gens. De votre point de vue, là, comment vous voyez ça? Quelles sont les craintes qui vous animent?
Ben, en fait, moi, je vois ça comme le gros bon sens. Alors, il faut éviter d'avoir des grands rassemblements à Noël, ça, c'est certain. Il faut penser à un Noël modeste. Il faut penser à un Noël où on voit la famille immédiate et puis qu'on évite de faire les grosses fêtes. Il y a des Noëls où on fait des grosses fêtes, puis il y en a où on fait des plus petites fêtes. Cette année, ça devrait être un Noël où on fait des plus petites fêtes avec la famille immédiate. Puis on peut toujours essayer de voir de la famille plus élargie dans des activités en plein air, par exemple. Je pense que ce serait un bon moment pour partager conversations ou des bons moments, mais éviter de se retrouver dans des grands groupes avec à l'intérieur où on n'est pas capable, puis on ne peut pas vraiment respecter la distanciation de 2 mètres là, quand on est en train de manger la dinde de Noël. À date, toutes les fêtes, toutes les journées fériées là, qu'il y a eu, ça a entraîné une augmentation des cas dans les 2 semaines qui ont suivi, puis ça sera pas différent Noël. Alors moi, je conseille à la population d'être prudent et d'éviter de surcharger le système de santé au mois de janvier, où il est déjà surchargé en temps normal.
Toujours avec le gros bon sens, j'aime votre approche là-dessus, docteur Tremblay. Toujours avec le gros bon sens, comment on doit gérer la situation des grands-parents avec les petits-enfants? Parce que Noël, veux, veux pas, c'est beaucoup ça, là. C'est les grands-parents qui veulent donner les cadeaux aux petits-enfants. Précisément là-dessus, comment vous voyez ça, vous, un Noël modeste là-dessus, là?
Ben, c'est sûr que c'est la situation la plus difficile parce que les personnes que l'on veut protéger, ce sont justement les grands-parents, les personnes âgées, les personnes vulnérables. Alors, c'est eux qu'on veut le moins possible exposer à de la contamination extérieure. Donc, il y a encore des sacrifices à faire pour ce Noël-là, malheureusement. Il y a différentes façons qui peuvent être envisagées. On peut effectivement penser à une certaine période de quarantaine de la part des enfants qui finissent l'école, puis peut-être avoir la rencontre avec les grands-parents plus tardivement dans la période des vacances. On peut, dans ce cas-ci, penser de garder une distance de 2 mètres. C'est sûr qu'ils pourront pas les serrer dans leurs bras, bien entendu, mais ils vont quand même pouvoir les voir et puis avoir l'occasion de jaser avec eux et puis d'échanger. Alors, faut utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour favoriser le maximum de relations possibles. Et puis, je suis très sensible à cette question-là des petits-enfants, mais ça serait tellement déplorable que des personnes qu'on aime, des personnes âgées, se fassent contaminer puis meurent de cette infection-là, alors qu'on est à quelques mois à peine d'avoir un vaccin là, qui va tous nous protéger. Ouais. Alors, je pense qu'il y a encore un petit effort supplémentaire à faire.
J'ai envie qu'on fasse juste un petit pas de recul, docteur Tremblay, et qu'on revienne sur un concept peut-être qu'on prend pour acquis, là, que les gens se souviennent bien de ce concept-là, mais je pense que ça vaut la peine de refaire l'exercice, de parler du, c'est quoi, c'est le RO ou le R0, bref, du taux de contamination, du nombre de personnes qu'une personne peut contaminer, à quel point plus ce chiffre-là grandit, ça devient vraiment exponentiel. Là, et c'est ça le risque qu'on court en multipliant les rassemblements.
Oui. En fait, c'est plus il y a de transmissions communautaires qui circulent, plus il y a des chances que quand on perd le contrôle, ça devient exponentiel. Autrement dit, une personne en infecte deux, mais deux en infecte deux chacune, alors ça se multiplie très, très, très rapidement. Or, on n'a pas réussi à abaisser les taux circulants présentement. On est à un plateau. Au moins, on a réussi à faire ça avec toutes les mesures que l'on a prises. Mais il y a encore beaucoup de circulation communautaire, puis on le voit parce que ça crée des éclosions dans les milieux de travail, des éclosions dans les écoles. Donc, c'est rampant. Il y en a beaucoup. Alors, c'est pour ça que dans une période des fêtes où tout le monde est à la maison et que le virus circule très activement dans la communauté, il y a des chances que s'il y a des gros rassemblements, que le feu prenne et puis qu'on voit une flambée des cas comme on voit en Europe, comme on voit aux États-Unis. Alors, et c'est ça qu'on aimerait éviter.
Est-ce que c'est pas un peu
ce taux-là, excuse-moi Jérôme, ce taux-là oui. devrait être à combien là? C'est quoi, c'est entre 0 et 2 personnes en bas de 1? OK, alors là, une personne infectée qui la rencontre 20-30 dans le temps des fêtes.
Ouais, qu'une personne infectée là en infecte moins d'une dans sa trajectoire. Autrement dit, il y a tellement peu de cas qui circuleraient qu'une personne infectée aurait statistiquement peu de chances d'en infecter une autre. C'est parce que les gens autour d'eux seraient immunisés ou soit que la personne n'aurait pas beaucoup de personnes autour d'eux, qu'elle serait pas très contagieuse et puis tout ça. Alors, moins il y en a qui circulent, c'est moins il y a de chances que la personne infectée en contamine beaucoup autour d'elle. Alors là, on n'en est pas là du tout. On a encore beaucoup de contamination circulante. Et puis donc, il y a de chances statistiquement que vous trouviez quelqu'un dans votre entourage qui a la maladie, qui ne sait pas qu'il l'a parce qu'il est asymptomatique et donc qu'il puisse contaminer les autres.
Est-ce qu'on devrait, docteur Tremblay, puis je sais que vous faites pas de politique, mais est-ce qu'on devrait prendre la décision, selon vous, de retarder déjà le retour à l'école? Parce que je pense que peu importe ce qu'on va annoncer tantôt à 17h, j'ai l'impression que des rassemblements, il y en a qui risquent d'en faire. Donc, l'augmentation du nombre de cas n'est-elle pas inévitable en janvier, le nombre de cas de COVID, docteur Tremblay?
Ben, à mon avis, oui, il va y avoir une augmentation du nombre de cas en janvier parce qu'il y en a eu après tous les congés, comme je l'ai dit tantôt. Donc, encore faut-il mettre les conditions pour en avoir le moins possible. Et puis, parmi ces conditions-là, c'est d'éviter les gros rassemblements. Donc, essayer de faire des fêtes modestes. L'idée de ne pas retourner les enfants à l'école pendant 2 semaines, ça s'appuie sur la logique qu'on va attendre une période d'incubation du virus. Donc, s'ils l'ont attrapé, ils vont s'en débarrasser. Puis quand ils vont retourner à l'école, ils ne l'auront plus. Donc, il y a une certaine logique à ça. Je ne sais pas si ça va être la décision ultime du gouvernement. C'est sûr que d'autres facteurs qui jouent dans l'équation. L'apprentissage scolaire est très important. Il faudra voir comment ça va être pris en charge. Il y a des gens qui suggèrent de faire un confinement total là, de tous les secteurs de l'économie pendant 2 semaines pour briser justement la chaîne de transmission. Moi, je suis pas certaine que faire ça, ça réussirait vraiment. Si on le fait juste pour 2 semaines, je suis pas certaine que ça remplirait les objectifs, là. Moi, je pense que l'idée, c'est de maintenir ça sous contrôle avec en diminuant au maximum la circulation communautaire jusqu'à ce qu'on puisse vacciner largement la population. Et puis là, on va avoir un effet beaucoup plus important.
Docteur Tremblay, il y a une question d'un auditeur sur notre messagerie texte qui m'amène à une autre question, parce que l'auditeur dit, est-ce qu'on devrait se faire tester avant Noël? Et là, je me dis, oh là 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 là, est-ce qu'on va craindre capacité à avoir suffisamment de tests ou à les traiter si tout le monde se pose cette question-là, ou si massivement les gens disent, ben pour être certain, je vais arriver dans mon party de famille avec mon petit résultat négatif, on risque de pas être capable de répondre à la demande, là.
Ben oui, d'une part, puis d'autre part, ça serait une fausse sécurité parce que on peut se faire tester une journée là, puis le lendemain, on se referait tester puis on serait positif parce que ça se peut que vous l'ayez contracté 3-4 jours, puis vous êtes encore dans la période d'incubation, puis la journée que vous vous faites tester, ben le test est négatif, et puis là 2 jours après, ben l'incubation, le virus a incubé, puis là il est clos, et puis là vous seriez positif. Donc c'est plus le danger de se donner une fausse sécurité en plus que le système serait pas capable de pourvoir à ça là.
Question d'un auditeur, docteur Tremblay. Je dirais que c'est une question de base. Comment gérer les repas, par exemple? Si on se fait un Noël, un petit peu plus restreint, mais qu'on prend quand même un repas avec des proches, j'imagine que la fondue puis le buffet, c'est pas nécessairement le temps. Mais même quand on sert des assiettes à la table, est-ce que c'est, j'imagine qu'il y a un risque aussi, là, de transmission, là.
Bien, si on fête avec les gens avec qui on habite, ben on peut manger avec eux comme on le fait quotidiennement, ouais, tous les jours. Ça fait que ça règle le problème. C'est, ouais, pour ça que je conseille aux gens de faire ça de façon très modeste. Si on invite quelques personnes supplémentaires, bien là, on peut toujours se rajouter des tables puis essayer de distancier le plus possible. Puis en ce sens-là, un buffet ou bien donc manger de façon répartie dans la maison, ça dépend de la grandeur de la maison puis du salon, parce que chacun peut juger quelle est la meilleure façon de se distancer les uns des autres pendant qu'on mange. Et puis donc, ça peut être une solution tout à fait valable.
Dites-moi, quand on fait des levées de fonds, par exemple, on dit toujours qu'il n'y a pas de petits dons. Donc, j'imagine qu'en effort, lorsqu'on parle des efforts en temps de pandémie, il n'y a pas de petits efforts. Mais en même temps, je me dis, si on repousse le retour à l'école, mais pas du délai de 14 jours qui est optimal, qu'on le fait juste de 7 jours, si pendant ce temps-là, il y a des services de garde qui sont ouverts, faisant en sorte qu'il y a quand même bon nombre d'élèves qui vont retourner à l'école, qui sont présentement dans leur bulle classe. Si les milieux de travail, eux, demeurent ouverts, etc., etc., je me demande, est-ce que ce geste-là va être suffisant pour vraiment freiner une éclosion plus importante? Est-ce qu'on en fait assez, en fait, en repoussant juste d'une semaine, par exemple, le retour en classe?
Ben, l'important, c'est que les décisions s'appuient sur une logique scientifique. Alors, si on dit qu'on repousse de 7 jours, ça implique que peut-être qu'on parle de 14 jours après Noël, dans le fond, là, et puis on pense que les gens fêteront pas au jour de l'an. Je suis pas certaine de suivre cette logique-là. Là. Ce qui serait logique en termes de fermeture ou de diminution d'activité économique et sociale, c'est au moins une période de 14 jours, parce qu'on veut que la période d'incubation du virus se soit terminée pour au moins briser un cycle de contamination puis de réplication. Alors, je ne sais pas quelles vont être les mesures qui vont être annoncées, mais faudrait s'assurer, comme vous dites, qu'il y a une certaine logique là dans ce, ouais, pour que ça vaille la peine de causer. Parce que c'est toujours un rapport entre les risques-bénéfices, là. Il n'y a pas de solution parfaite présentement dans la pandémie. Il n'y a pas la bonne solution, là. Quand on prend une décision dans un sens, on brime quelque chose, dans l'autre sens, on brime quelque chose d'autre. Alors, c'est de s'arranger pour que l'équation soit favorable. Si on prend une mesure comme celle-là, qu'elle aille au moins un certain impact sur l'épidémie. Dans le cas présent, ce qu'on vit, c'est diminuer la possibilité que les cas dégénèrent après la période des fêtes.
C'est toujours fort intéressant. Merci beaucoup, Dr. Tremblay.
Merci.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Merci, Dr. Cécile Tremblay, donc microbiologiste et infectiologue. Je regarde, il y a des auditeurs qui font preuve d'un peu de sarcasme. Il y a quelqu'un qui dit, nous devrions peut-être demander au gouvernement si les napperons fit avec le kit de vaisselle. Ils ont sûrement une réponse.
Ouais, mais ça, je comprends ce qu'elle dit. Mais je pense que le message de la Dr. Tremblay est assez clair, Jonathan. Je pense que, puis ça, c'est son message à elle, mais elle est quand même microbiologiste, infectiologue, OK? Je pense que son message à elle, il est assez clair. Vous n'êtes pas obligé de l'appliquer. Mais je pense que ce qu'elle nous dit, c'est à Noël, restez donc avec votre famille proche, là, vos enfants, votre conjoint. Si vous voulez pas surcharger les hôpitaux, créer de nouvelles éclosions puis une surcharge de cas en janvier. Moi, c'est comme ça que je comprends son message. Tu sais, des gens qui nous écrivent aussi, trois tables dans un deux et demi, ça se fait bien. Ben, c'est ça la réalité. C'est que ça marchera pas partout pour tout le monde là, de faire des parties de Noël. On comprend très bien que c'est pas tout le monde qui peut installer trois tables chez eux. Là. C'est clair, mais je reviens à son message de base. C'est un Noël modeste là, qu'elle nous suggère. Noël modeste, ça veut dire que votre blonde puis vos enfants. C'est un peu ça qu'elle dit.
T'sais, de plus en plus, moi, ce que je réalise, Jérôme, c'est que d'un strict point de vue de santé publique épidémiologique, je rajoute épidémiologique parce que en santé publique, certains diront qu'on la santé mentale, on doit le mettre, là, mais d'un strict point de vue de santé publique épidémiologique, de permettre les rassemblements à Noël, ça ne fait aucun christi bon.
C'est sûr que ça va occasionner des cas de
la réalité, c'est ça. C'est que les chiffres ne sont pas assez retombés. Comme par exemple, en Australie, le devoir, on parle d'à quel point l'Australie a réussi à diminuer son nombre de cas en étant très, très strict dans les deux, trois derniers mois, leur permettant d'ouvrir Noël. Nous autres, là, d'un strict point de vue de santé publique épidémiologique, ça fait aucun sens. Par contre, là, quand tu mets en balance la santé mentale, etc.,
voilà.
C'est ça qui va les guider. Mais je pense que et plus il y a des gens qui vont se dire, regarde, moi, pour telle raison, le petit cocon familial va faire la job et on se reprendra pour voir la famille plus élargie. Plus il y a des gens qui vont faire ça à Noël, moins l'impact va être grand.
Mais elle suggère un peu ce
qu'il y a des gens qui vont dire, on n'a pas le choix, faut que je vois ma famille.
T'sais. Puis elle a suggéré quelque chose qu'on a évoqué un peu hier. Ok, je comprends que c'est pas l'idéal, ok? Mais ça peut faire partie des solutions. Vous voulez voir le beau-frère, la belle-sœur? Pourquoi pas une activité extérieure? Aller patiner sur une patinoire extérieure. Aller, je sais pas, faire du ski. Les centres de ski vont être ouverts. Allez patiner. Au pire, amenez-vous un petit flacon, là, puis gardez à distance à l'extérieur, puis ça va être ça, là.
Un bon petit
flacon. Ça peut être ça, Noël, cette année aussi, là, même si c'est pas... Puis tu parlais de l'Australie tantôt, Joe. Je sais pas si tu as vu le reportage hier à RDI, au téléjournal, sur l'Italie. Tu sais, on a beaucoup parlé de l'Italie au printemps. L'Italie, là, la deuxième vague commence à frapper très, très fort aussi. Ils sont rendus avec des respirateurs à l'auto. Tu fais la file à l'extérieur de l'hôpital avec ton auto. Puis là, on t'installe. Les gens qui ont des problèmes respiratoires, tu peux même te faire installer le respirateur au service à l'auto, là. Ta consultation à l'hôpital, c'est pas juste le test. C'est ta consultation qui se fait à l'auto parce que les hôpitaux italiens sont complètement débordés avec la deuxième vague. Fait que le prix de Noël, ça va peut-être être ça. J'haïs le confinement. Je veux pas passer pour un confineur. Mais le prix de fêter Noël avec beaucoup de monde, ça va être des hôpitaux qui vont déborder encore en janvier.
Exact. OK, donc 10h41, on va faire une pause. On va parler d'éducation au retour. Je pense que c'est essentiel de le faire. On va parler de ça dans quelques minutes dans Trudeau-Landry. Bougez pas.